Face au GG, le ministre des Transports, Clément Beaune, bonjour.
Bonjour.
Le train est-il en train de dérailler? Je vous pose la question parce qu'il y a un paradoxe. Jamais les Français n'ont autant plébiscité le train cet été pour partir en vacances. Et jamais on a eu autant de plaintes. On parlait de la région Auvergne-Rhône-Alpes où visiblement les annulations de trains explosent pour multiples raisons. Tous les jours, les gens se plaignent d'un train qui n'est pas ponctuel, qui doit faire face. Alors une fois c'est la canicule, l'autre fois il y a une grève, la troisième fois c'est une autre... Voilà. Est-ce qu'il y a un problème avec le train en France?
Il y a des problèmes, on va pas se mentir. Il y a eu des difficultés, alors elles sont pas du même ordre. Il y a effectivement la canicule, il y a eu des retards sur certaines lignes. Il y a des lignes où il y a des problèmes récurrents. Vous avez parlé de Auvergne-Rhône-Alpes, Paris-Clermont, c'est une ligne où il y a des problèmes importants. Bon, au total, il faut quand même qu'on soit fier aussi de ce qui marche bien. On parle toujours des trains qui arrivent pas à l'heure. La plupart des trains arrivent à l'heure. Quand on regarde, je sais que c'est des statistiques, mais quand on regarde les indicateurs, la performance, la ponctualité se sont améliorées. Après, il y a un problème de fond, qui pour les politiques n'est pas très sexy parce que ça ne se voit pas à court terme. C'est le réseau. Il y a une dizaine d'années, en gros, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, il y a une dizaine d'années qu'on commence à parler du réseau, c'est-à-dire les rails, les infrastructures, les caténaires, etc., qui vieillit en France et qui est plus vieux, deux fois plus vieux en moyenne, que chez nos grands partenaires amis européens. Bah parce qu'on n'a pas assez investi dans le réseau. Et que c'est un choix qui a été politique, qui a eu des avantages aussi, faut pas se raconter d'histoire, mais on a investi beaucoup dans le développement de nouveaux projets, beaucoup la grande vitesse. Tant mieux, c'est un avantage français aussi. Ça a permis de développer beaucoup de grandes métropoles, qu'on soit à Paris à 2 heures de Lyon, à Paris à 3 heures de Marseille. Et c'est une bonne chose. On est le meilleur pays en Europe
mais
pour la grande vitesse.
On a délaissé l'entretien.
Mais ça coûte très cher. Et parfois, on a délaissé l'entretien. Et puis, après, faut être honnête aussi, comme on peut pas tout faire, il y a des débats qu'on doit avoir au Parlement, qu'on doit avoir avec tous les élus locaux. C'est est-ce qu'on privilégie de nouvelles lignes ou des réouvertures de lignes, parfois ce qu'on appelle des petites lignes, je crois qu'il en faut. Parce que c'est important pour l'écologie, c'est important pour l'accès dans certains territoires qui sont loin du train parfois. Ou est-ce que on met le paquet sur le réseau? Et c'est pour ça que je dis que c'est pas sexy, parce que quand vous êtes ministre des Transports, quand vous êtes dans un gouvernement, bah, vous dites on va réinvestir sur le réseau, ça se voit pas. À court terme, vous avez pas un ruban à couper, un nouveau train qui va avancer. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental. Et moi, la priorité que je veux qu'on ait, c'est de mettre le plus d'argent possible. On met 3 milliards d'euros par an. C'est un grand chiffre, mais on va essayer de mettre encore plus sur le réseau. Parce qu'il faut qu'on ait plus, le moins possible de problèmes comme ça, de retard et de problèmes techniques.
Est-ce que le TGV est trop cher?
Mais alors, ça, c'est débat récurrent aussi. Il est cher. Objectivement, il est cher. Il est, dans les pics comme l'été, souvent un peu plus cher que chez nos voisins. C'est aussi, il faut là dire toute la vérité, parce qu'on a un bon réseau de grande vitesse. On a beaucoup de lignes. Il est cher parce qu'on a un système qu'on appelle, c'est un peu barbare, le yield management. C'est un peu à la mode. Mon voisin doit connaître ça dans l'aérien.
Ouais,
bon, ça fait que
incontournable.
On met pas le même prix tout le temps.
Non.
Donc c'est plus cher le 14 juillet pour le pont que le 15 novembre. Ça, c'est vrai. Alors, parfois, du coup, c'est très cher dans les périodes de pointe. Si on fait pas ça, ça veut dire que vous avez plus de billets 3 mois avant le 14 juillet. Bon, parce que le prix, ça régule aussi. Après, il est cher. Faut dire tous les choix politiques qu'on a fait aux Français ces dernières années. C'est que le TGV, il reçoit pas de subventions. Le TGV, c'est ce qui finance aussi tout le réseau, les trains du quotidien, les petites lignes rurales, etc. Donc oui, le TGV, il est cher, parce que le choix qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit au total, le TGV, c'est plutôt vacances, déplacements professionnels, pas le luxe, mais des déplacements qui sont pas toujours le quotidien. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que ça soit le moins cher possible. En France, on est moins cher que les autres pays européens, sur RER, Transilien, le TER, etc. 3/4 du coût d'un TER ou d'un RER, c'est pris en charge par l'État, par les collectivités publiques.
Quand on prend un billet de TER, on ne paye pas le vrai prix.
On paye un quart du prix. Un quart du vrai prix.
Ouais.
Sur le TGV, on paye tout le prix.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, parce que, après je vais donner la parole à mes camarades, mais moi je note un paradoxe. Là, le gouvernement a décidé d'aider les Français à mettre de l'essence dans leur voiture. Bon, ça peut paraître étonnant, puisqu'on est plutôt dans l'idée qu'il faut abandonner cette énergie carbonée. Pourquoi ne pas, comme ça s'est fait en Allemagne, plutôt inciter les Français à prendre le train en baissant le prix des billets, au lieu de financer finalement l'essence, plutôt financer nos billets de train davantage et donc favoriser ce transport non polluant?
Ah, je suis d'accord. Je pense que le ferroviaire, c'est la colonne vertébrale, je reprends les mots d'Elisabeth Borne, la colonne vertébrale de ce qu'on doit faire pour la transition écologique dans les transports. Ça, c'est clair, et on doit réinvestir. Faut quand même dire la vérité, pourquoi on fait des aides au carburant? Bon, parce que 80% des déplacements pour aller bosser ou pour aller en vacances même, parce que parfois il n'y a pas d'alternative à court terme, c'est la voiture. Donc c'est une mesure d'urgence, mais il ne faut pas qu'elle dure éternellement. Ce qu'il faut, c'est le changement d'usage. Il faut encourager le train. Après, la question, c'est où on met les moyens. En Allemagne, moi j'ai regardé de près, ils ont fait une mesure, c'est 9 euros pour
9 euros.
Les jeunes pour circuler partout. C'est juste pour l'été, hein. C'est une promo l'été. Ça coûte 3 milliards d'euros pour tout l'été.
Nutrition, on a le coût de combien sur le carburant?
20 milliards d'euros sur l'année, voilà. C'est vrai, mais c'est pour beaucoup de déplacements du quotidien. Moi, je pense, vous avez raison, il y a un sujet de tarification pour les vacances, même pour les grandes lignes à SNCF. La politique qui a été suivie par la direction de la SNCF depuis 2-3 ans, c'est de mettre le paquet sur les cartes de réduction. Carte avantage, hein, il y a beaucoup de Français qui doivent nous écouter, je crois que c'est 3,5 millions de personnes qui ont la carte avantage, ça permet d'avoir des prix plafonnés. Je ne vais pas dire de mensonge, ça sera toujours plus cher le 14 juillet, le pont du 15 août, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut réfléchir à des tarifications sociales pour les jeunes, dans certains cas pour des gens qui ont des besoins familiaux, etc. Moi je suis prêt à le faire, on va commencer ça avec la SNCF. Mais je vous dis très franchement, s'il faut mettre des milliards d'euros quelque part en priorité, pour moi c'est le Transilien pour l'Île-de-France, c'est les grandes métropoles comme Marseille, on doit développer le réseau de transport qui est mauvais aujourd'hui, qui n'est pas assez bon, on va remettre 50 millions d'euros.
Et les régions, il faut qu'elles s'y mettent.
Et les régions, bien
parce
sûr.
Que la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est pointée du doigt.
Bah vous avez
vous
raison.
Vous dites quoi, M. Wauquiez, alors vous dites quoi, Laurent Wauquiez?
Je dis, il faut faire l'effort avec nous. C'est les collectivités, moi, je ne vais pas les pointer du doigt parce qu'il faut... Ça sert à rien, on va être tous dans le même bateau ou dans le même train. Bon, c'est l'Île-de-France en Île-de-France, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, etc., pour le déplacement du quotidien qui mettent de l'argent pour les
TER. Vous dites au président région, faites des efforts aussi.
Je dis, on va tous faire des efforts. On va faire des efforts sur le réseau, mais ça veut dire aussi que pour les collectivités locales, il y a des efforts à faire.
C'est Laurent Magnien. Question à Clément Beaune.
Ouais, bon, la première sur la SNCF, c'est quand même qu'on a effectivement une dégradation. Il faut quand même se rappeler que dans ce pays, la SNCF ont réglé ses montres sur le passage des trains. Et l'histoire est vraie. C'est-à-dire qu'on a fait fonctionner un des meilleurs réseaux ferrés au monde, jusqu'à encore, même aujourd'hui. Il y a encore des pays où le réseau ferré, il n'est pas à la hauteur de notre réseau actuel. Mais on a un vrai problème de la relation à la qualité et à la performance. Du reste, moi, je lance quand même une piste sur cette histoire, hein, qui est la visibilité de la performance pour le consommateur. Aujourd'hui, les lignes, déjà, où on pourrait commencer par celle-là où ça ne va pas. Je pense que la SNCF devait être dans l'obligation d'afficher la performance de ponctualité. C'est-à-dire que moi, je pense que tous les mois, on doit savoir, ou même on doit avoir... sur les lignes, par exemple, on a parlé de la ligne Paris-Rouen, parce que c'est vrai que j'ai des amis qui m'expliquent que ça devient un cauchemar.
Il y a des gens qui l'apprennent tous les jours pour aller travailler.
Des gens qui disent que c'est un cauchemar, eh ben, il faut arrêter de parler dans le vent, disant qu'ils sont en retard, mais alors des fois, il n'y en a pas. Non.
Oui, mais est-ce que la SNCF est la mieux placée pour se juger elle-même?
Parce que, c'est un choix que peut prendre le ministre des Transports. Il peut très bien, à un moment donné, la restauration de la confiance, mais mieux que ça. L'amélioration de la performance, c'est le service qualité. On est d'accord. Les entreprises aujourd'hui, il y a un directeur de la qualité. Ouais. Son job, c'est de mettre des indicateurs. Où sont les indicateurs simples à lire de la SNCF?
Clément Beaune.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est une des priorités, c'est l'information du voyageur. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des problèmes.
Alors juste ça s'est amélioré quand même, il faut être honnête à SNCF, on reçoit des SMS, etc.
Exactement, parce que franchement, moi je me souviens avant, vous étiez bloqué dans un train au milieu de la voie il y a 15 ans, et puis on vous disait quand ça repart, que ça repartait. Là, vous avez un SMS sur votre...
C'est vrai que ça s'est amélioré.
L'application, elle avait quelques bugs au début. Franchement, elle est bien aujourd'hui, SNCF Connect. Vous avez l'information voyageur. Et pour avoir voyagé en Europe, je peux vous dire que vous allez en Belgique, vous avez marqué une minute de retard, puis 10 minutes de retard, puis 15 minutes de retard. Ouais. En France, on a une information précise, fiable, et on vous explique les causes. Quand il y a la canicule, on vous dit que c'est la canicule.
Alors, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de retard, quand même.
Voilà. Le mieux, c'est pas d'informer sur le retard, c'est qu'il n'y ait pas de retard. Aussi. Ça, je suis d'accord. Mais... Je pense que tout le monde peut comprendre qu'il y a 15 000 trains qui roulent chaque jour en France, qu'il peut y avoir des difficultés.
Sûr.
On va les réduire, mais l'information voyageur et la transparence, je pense que c'est hyper important qu'on ait et la performance et qu'on dise, ça s'est amélioré sur telle ligne ou pas.
Parce que en fait, on a supprimé à une époque énormément de lignes de trains qui reliaient des petites villes entre elles. On a vu que les villes se cassaient beaucoup la figure à cause de ça. Et on a beau nous dire qu'on les a remplacées par des cars, en fait, quand il y a un bus le matin, un bus le soir, c'est pas comme du temps où il y avait les trains. Et je voudrais savoir s'il y a... Par exemple, moi, je vais dans une ville, Arnay-le-Duc, pour y aller... Je peux, si j'y vais en train, je vais donc à Beaune en train, et ensuite de Beaune à Arnay-le-Duc, je n'ai rien pour y aller, il faut que je fasse du stop. Donc, ça, c'est un problème, parce que comment on fait pour rejoindre et est-ce qu'il y a on peut imaginer qu'on remette à nouveau au goût du jour des lignes qui ont été disparues.
Les petites lignes.
Oui, des petites lignes.
On en a. Je rends hommage à Jean Castex parce que c'est lui comme Premier ministre qui a beaucoup mis l'accent là-dessus.
Le train de nuit notamment.
Alors le train de nuit, le fret ferroviaire et puis ce qu'on appelle les petites lignes parce qu'il y avait du réseau. Parfois on l'entretenait pas et on est en train de le faire petit à petit avec les régions, parce que ça coûte de l'argent, les petites lignes. Après moi je veux qu'on soit honnête. Je pense qu'il y a un réinvestissement très fort à faire sur le réseau. Parce qu'on l'a mal entretenu, même s'il reste meilleur que dans beaucoup de pays, heureusement, mais on l'a mal entretenu parfois. Il faut que dans les grandes agglomérations, mais au sens large, c'est aussi Paris-Rouen, c'est aussi Paris-Orléans, etc. C'est l'Île-de-France, c'est le bassin parisien, le bassin marseillais et quelques autres grandes métropoles. Là, il faut réinvestir beaucoup. Et puis il y a des cas, il faut regarder pragmatiquement. Quand vous avez deux personnes dans un train une fois par jour, on ne va pas entretenir toutes les lignes. Alors vous pouvez mettre peut-être un bus électrique. Donc il faut du pragmatisme. Mais en tout cas, il faut proposer à chaque fois une solution de transport. Et quand il y a des gens, moi j'ai ma mère qui habite à 10 km d'Arles. Quand elle va chez le médecin spécialiste, on ne va pas lui mettre un train.
Non,
elle prend la voiture. Pour qu'on arrête de polluer et que ça arrête de lui coûter du carburant qui coûte aujourd'hui la peau du dos, il faut passer à l'électrique sans se ruiner. Et donc c'est ce qu'on va faire en essayant
d'accompagner le passage
électrique. Ça coûte très cher, mais je préfère qu'on mette de l'argent sur le passage de la voiture polluante à la voiture électrique plutôt qu'on dise qu'il y aura du train absolument partout, parce que c'est pas tout à fait
vrai. Mais on pourra fournir l'électricité à toutes les voitures en circulation, parce que là aussi je note un paradoxe, puisqu'en ce moment on nous dit sobriété énergétique, attention, ne dépensez pas trop d'électricité, et en même temps on veut que tous nos véhicules soient électriques. Alors là aussi il va falloir quand même nous expliquer comment on va résoudre cette équation. Ou alors il y aura moins de voitures en circulation, mais ça il faut l'assumer, il faut le dire.
Vous avez raison, d'abord dans 30 ans on verra, mais pour l'instant si on passe déjà à usage équivalent d'une voiture essence diesel à une voiture électrique, c'est un progrès. De toute façon, on va devoir consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'électricité pour remplacer le gaz russe, notamment, pour remplacer le pétrole qui va s'arrêter à un moment donné. On a besoin, en gros, de 40% d'électricité produite en plus d'ici 2050.
Pour l'instant, on produit quoi, 60% d'électricité en France?
Oui, à peu près, mais on va produire une plus grande part du gâteau et le gâteau va grossir.
Ouais.
On va passer, toute la transition écologique, c'est passer à l'électrique dans beaucoup de domaines. Donc, il y a de la sobriété énergétique, quoi qu'il arrive, mais même si on fait de la sobriété énergétique, il faut produire plus d'électricité pour remplacer le fossile. Bon, et donc ça veut dire deux choses. Le nucléaire, parce que d'ici 2050, si vous voulez être neutre en carbone, pas polluer, ben c'est le nucléaire. On n'a pas assez investi ces dernières années, on réinvestit. Et puis c'est le renouvelable. Il faut les deux. Là, c'est vraiment dû en même temps, pardon, mais il faut les deux, parce que ce n'est pas vrai qu'on aura un mix énergétique, comme on dit, une production énergétique d'électricité qui va augmenter quoi qu'il arrive, si on n'a pas aussi beaucoup de renouvelables, notamment de l'éolien en mer.
Oui, qu'en mer. Maintenant, le sujet tabou, c'est l'éolien en terre.
Non.
On n'en parle plus.
Il faut pas qu'il y en ait, il n'y en aura pas zéro en plus, ça c'est clair. Ah. Mais on sait que ça pose des problèmes d'acceptabilité, de terres agricoles, etc.
On sent que là, on marche sur des.
Dans le Loiret, là, il y en a
des braises.
Le Loiret va décoller.
Les gens sont payés. Hein.
Non, mais il faut être lucide.
Dans le Loiret, le problème, c'est qu'on les met partout. On les met au même endroit, les éoliens.
Exactement, c'est ça le sujet. Si on est honnête, c'est qu'il n'y a pas eu de programmation et de planification. Les endroits où on a commencé, on a continué. Et puis les endroits où il n'y en a pas du tout. Et les endroits où il y en a peut-être aujourd'hui déjà trop. Donc il faut répartir. Les Allemands, ils ont le même problème. Ils essayent d'en mettre dans chaque région.
Revoir la loi que l'on a votée. Que j'ai essayé, j'ai fait un amendement, je l'ai défendu, j'ai fait.
Sur l'éolien ?
De façon à ce que les maires ruraux puissent voter, faire voter la population. Ça m'a été refusé.
Parce que pour l'instant, c'est un propriétaire privé qui décide.
Maintenant, les maires peuvent être consultés. Mais les consultations. Donc là, ça serait extrêmement, vraiment très, très, très important. Les maires ruraux l'attendent. Ils le veulent, la population aussi. Là, quand je vois, moi, et Trépanier, tout ce qui est en train de se mettre en place.
C'est-à-dire qu'on les met toujours au même endroit, en plus.
Ça suffit, quoi. Et puis, ça doit y accepter. Il faut vraiment que les élus.
Mais c'est pas la collectivité qui est payée.
Oui, mais ça fait vivre des centaines de paysans.
Et Claire a complètement raison.
C'est 20 000 balles.
C'est terminé.
C'est 20 000 balles par éolien.
C'est fini.
Vous avez complètement raison, parce qu'en fait, il y a des endroits où il y a une acceptabilité. Il y a des endroits où s'il y a un deal, si je puis dire, parce qu'il y a des ressources fiscales pour la collectivité, il y a de l'emploi, les gens peuvent accepter. Donc moi, je pense que le renouvelable, il ne faut pas mentir, on va le développer, y compris sur la terre.
Alors,
on n'a pas été assez rapide sur la mer. C'est pour ça que je mentionnais la mer, parce qu'on a un parc éolien qui sort de l'eau. Les Britanniques, ils sont à 10. Voilà. Donc on a dit qu'on allait en faire 50 d'ici 2050. Il faut accélérer beaucoup, beaucoup.
Ouais, on est toujours en retard, mais on arrive avant, donc ça va.
Ouais, mais sur l'énergie, il y a quand même un savoir-faire français. On n'a pas assez investi dans la
filière. On a un peu perdu quand même.
EDF peut devenir aussi et en train de devenir un gros acteur du renouvelable. Et puis, ce que raconte Claire, c'est l'histoire de l'énergie à chaque fois. Moi, j'étais pas là, mais quand on construisait des centrales nucléaires dans les années 60, au départ, quand vous disiez au maire, vous allez voir, on vous prend le champ, on va mettre une centrale nucléaire, c'était bof.
Mais il y en a quand même moins que des.
Il y a eu des ressources fiscales qui ont été, du projet de développement, il y a eu de la sécurité, etc. Sur les éoliennes, moi, je pense qu'on peut faire pareil, mais ça veut dire concertation et répartition. Tous au même endroit.
Rapidement, parce qu'il y a des questions aussi dans les transports, dans les aéroports. Ouais. C'est la pagaille dans les aéroports. On a même été classé, enfin, Roissy a été classé comme l'un des aéroports les plus perturbés au monde cet été dans une étude internationale. On en parlait sur CNN, la honte.
Non, alors d'abord, je veux dire, il y a quand même un classement qui fait référence sur les aéroports chaque année et qu'on grappe des places chaque année parce que.
Alors chacun son classement.
Non, la perturbation de l'été.
Sur Roissy, c'est amélioré.
Franchement,
on était 25e, c'est tellement bas.
Les images des bagages qui restent.
Il y a eu deux problèmes concrets. Moi, c'était mon premier sujet quand je suis arrivé. Il y a eu deux problèmes. paumé 35 000 bagages. Ils sont pas paumés. En fait, ils ont été pas expédiés parce qu'il y a eu une grève, il y a eu un problème de triage, etc. Bon, ça, c'était, c'est ça qui a fait le classement, parce que ça a créé beaucoup de retard.
Mais c'est un vrai souci. Enfin, moi, je sais que maintenant, je vais partir qu'avec un voyage, un sac cabine, tellement je me dis que j'ai même pas envie de prendre le risque.
Ce qui est préconisé d'ailleurs par les entreprises.
Ah oui, mais moi, j'ai tellement de choses à mettre que je mets tout comme ça et j'enfile les vêtements sur moi-même, donc ça n'a aucun sens.
Les sacs cabine, vous allez avoir
chaud. J'arrive, j'essaie de dire un bilan d'homme.
Il y a eu un gros problème début juillet.
Il y a de la place, hein.
Et il y a eu une grève aussi. Donc, il y a eu les deux, il y a le cumul des deux.
Ah bah, début juillet. Super.
Non, mais depuis, c'est pas que moi, mais on a travaillé pour qu'il n'y ait pas de grève.
Est-ce que c'est réglé le problème?
Il n'y a pas eu de grève chez Aéroports de Paris. Il y a eu quelques grèves dans les aéroports de région, notamment Bordeaux, ça a été réglé. Et puis, il y a eu un problème Transavia. Ouais. J'espère qu'on le règle pour les gros week-ends, notamment le chassé-croisé, pour éviter les perturbations. Après, il faut être transparent aussi. Dans le classement, je crois que sur les 10 aéroports les plus perturbés, il y a aussi Francfort qui est devant nous. Ouais. Il y a les deux aéroports de Londres. Il y a 7 aéroports européens. Parce qu'en Europe, tant mieux au départ, il y a un énorme redémarrage Amsterdam, des voyages. Catastrophique. Amsterdam, catastrophique.
Catastrophique.
Franchement, je regarde les images de Londres, ça n'a rien à nous envier, au contraire.
Donc, nous, on a eu un problème spécifique. Quand on se compare, on se désole. Ouais, mais enfin, quand on se voit, on se désole. Quand on se compare,
parce que
on est content.
C'est comme la qualité. Moi, je suis allé voir Air France et ADP, je leur ai dit, écoutez, on peut tous avoir un problème à un moment, simplement, il faut le reconnaître et il faut le régler. Bon. Et donc, les bagages, on m'a reproché d'avoir été trop optimiste. J'ai dit, au bout de 5 jours, ils ont tous été réacheminés. Simplement, c'est vrai qu'ils sont pas tous arrivés au propriétaire, je reconnais.
Ah ben, c'est embêtant.
Ben non, mais je suis d'accord, mais je leur mets la pression pour que ça. Ben, mais parce que quand vous allez envoyer la valise à New York, il devait partir à New York, parfois la personne est revenue.
Bon. Voilà. Oui, pas, parce la compagnie aérienne n'a pas toujours
l'info. Ouais, ben je sais, mais la compagnie aérienne n'a pas toujours l'info. Donc là, j'ai mis une grosse pression. Air France, Aéroports de Paris, ils font le maximum.
On est indemnisé quand même.
Moi, j'ai été ministre de l'Europe. Merci l'Europe, on est indemnisé. C'est obligatoire pour les compagnies, vous êtes indemnisé quand le bagage est en retard ou perdu. Comme quand vous avez un retard.
Il y a aussi un problème d'effectif, une pénurie d'effectifs dans les aéroports.
Bah, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de secteurs, du transport et des aéroports. Il y a eu des difficultés pour recruter les personnes qui font le contrôle des bagages, des bagagistes, etc. Parce que ça redémarre beaucoup plus fort qu'on pensait. Et franchement, moi je me suis attelé à éviter les problèmes sociaux le maximum, parce que je veux pas qu'on ait un mois d'août qui soit comme ce qu'on a connu début juillet. Franchement, ça s'est amélioré depuis début juillet.
Donc vous promettez à ceux qui vont prendre un avion au mois d'août.
Alors,
il y aura pas de problème dans l'aéroport.
Il y aura. Faut être honnête. On a parfois pris l'avion l'été. Il peut y avoir de l'attente.
Oui, non, bien sûr.
Personnel, mais je touche du bois, mais il y a pas de grève dans les grands aéroports français le week-end qui arrive et j'espère les week-ends qui suivent. Il y a pas de grève chez Air France, pas de grève chez Aéroports de Paris. Après, je donne un conseil pratique. Hein, il faut prendre un peu plus de marge que d'habitude.
Oui.
C'est 2 heures pour les vols européens, 3 heures pour les vols internationaux.
Maintenant, ça prendra plus de temps d'aller à Roissy que de prendre son avion et aller à destination. Mais bon.
Non.
Ça fait déjà un moment.
Franchement, je connais bien les aéroports de Paris. On a amélioré beaucoup la qualité du service, même s'il y a des mouvements sociaux, il faut faire attention et les éviter. Et puis, il y a eu des désorganisations. Faut les reconnaître et éviter que ça se reproduise. Ça, c'est clair.
Une question plus personnelle. Vous avez pardonné à Caroline Cayeux?
Mais moi, j'aime pas me placer sur le terrain de c'est personnel. C'est pas moi qui ai été victime parce que je suis gay. C'est pas ça le sujet.
Bah, vous avez dit ces gens-là, je me sens visé. Donc vous parliez de vous.
Non, j'ai dit j'en fais partie parce que je voulais dire vous aviez à tous les gens qui ont été blessés parce qu'ils sont attachés à l'égalité ou parce qu'ils sont eux-mêmes désignés par cette expression extrêmement regrettable que je partageais à titre personnel aussi la blessure que ça représente. Bon.
Donc à présenter ses excuses, est-ce que vous lui avez pardonné?
Mais oui, moi c'est pas le sujet. Mais
oui ou non?
Non, mais moi c'est pas mes excuses. Non, mais je veux pas en faire. C'est pas une bataille entre elle et moi. C'est pas moi qui ai été visé
parce
par
qu'elle a dit qu'elle avait compris qu'elle vous avait blessé.
Oui,
donc
elle a présenté des excuses pas à moi et pas seulement aux personnes LGBT. Elle a présenté des excuses pour des propos qui sont contraires à un principe d'égalité, de lutte pour les droits, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a encore des combats.
C'est des excuses sincères?
Ben, j'espère, ça je crois, oui. Et puis on peut changer. Et puis surtout, ce qui est important.
On peut changer parce qu'on est ministre? Ou est-ce qu'on peut changer parce que c'est un cheminement?
On peut changer tout court. Je ne sonde pas les consciences et les cœurs. Ce qui m'importe, c'est 2 choses. Moi, je ne me tairai jamais quand il y a un problème sur ce sujet, même au sein du gouvernement, parce que c'est trop important. Voilà, toujours. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, je l'ai fait comme ministre de l'Europe, c'est de mener le combat sur le fond, sur les droits. Et donc, je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la ligne du gouvernement. On a fait la PMA pour toutes. On a évidemment défendu le mariage pour tous, qui a été fait sur la législature précédente. C'était une grande avancée de la gauche au pouvoir. On a fait l'interdiction des thérapies de conversion. C'est notre majorité, nos députés, qui ont siégé encore cette nuit, qui ont fait ça dans la mandature précédente. Ça, c'est important. Je veux pas qu'on gâche tout ça avec des propos dont j'ai dit ce que j'en pensais, regrettable, blessant.
Mais donc c'est plus une question de casting, parce que Mme Cayeux a le droit de penser ce qu'elle pense, mais c'est aussi la personne qui l'a choisie, Mme Cayeux.
C'est une question de ligne politique.
Oui.
Maintenant, il y a eu cette sortie.
Il n'y a qu'une seule ligne politique.
Il n'y a qu'une seule ligne politique au gouvernement, ça je vous le confirme, il faudra demander à la Première Ministre, c'est l'égalité, les droits, le bilan qu'on a sur les 5 dernières années.
Donc quand vous la croisez, tout se passe bien au Conseil des ministres?
Vous déjeunez ensemble et tout?
Peut-être pas jusque-là. Vous pourrez partir en week-end ensemble?
Ça dépend un peu des transports, mais
allô,
ça dépend des transports. Que les autres puissent partir.